Slate Podcast.
You are nothing, Johnson.
C'est pas faux.
That's what the money is for.
C'est bon, Lou.
The danger. I am the one who knocks.
I think that I may be the voice of my generation.
Suit up.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième hors-série de l'été. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec Marie Telling. Elle est à moi ce que la vodka est à Marissa Cooper. Salut Marie.
Salut Anaïs.
Pendant l'été, on vous offre des petits épisodes hors-série dans lesquels on revisite des séries cultes et estivales qui ont bercé notre jeunesse. Dans cet épisode, après Buffy, on s'attaque à Newport Beach, The OC en version originale. Un bad boy au grand cœur, un geek adorable, une princesse torturée. Newport Beach, c'est la série adolescente créée par Josh Schwartz et diffusée en France à partir de 2004, dont le célèbre générique hante encore nos rêves de sériephile.
California, here we come, right back where we started from.
C'était magique.
C'était magnifique.
17 ans après cette diffusion, on a donc voulu revoir le pilote de cette série. Et il faut préciser que l'épisode en français s'appelle « Le bad boy ». Donc
oui.
Déjà, ça fait très envie.
Ça annonce quelque chose d'assez grandiose.
Marie, c'est quoi ton rapport à Newport Beach ?
Bah, c'est une série que j'ai regardée quand j'étais adolescente. Et j'ai pas regardé toute la série, honnêtement. Je me suis arrêtée au bout de deux saisons. J'ai adoré la première saison, j'étais assez fan. Mais après, je me suis très vite lassée. Enfin, ce que j'adorais, moi, dans Newport Beach, c'était... Enfin, Seth Cohen, c'était vraiment mon personnage préféré. J'étais un peu amoureuse de lui, donc... J'aimais beaucoup la BO et je me souviens de l'avoir écouté pas mal, surtout le générique. Et puis, il y avait des petits trucs comme... Enfin, le Chris Mouka, c'est Noah Luka en français. Mm. C'est-à-dire la fête qu'a créé Seth Cohen pour mélanger Noël et Hanouka, que moi, j'adorais parce que... Enfin, je viens d'une famille mixte qui est en partie protestante, en partie juive. Et du coup, je me reconnaissais vachement là-dedans. Et c'était aussi un truc que j'avais jamais vu à la télé avant. Donc, c'était vraiment... Enfin, j'aimais beaucoup ça et c'est un peu mon rapport à la série, mais je suis pas une énorme fan. Tandis que toi, je pense que ça l'est un peu plus.
Ouais.
C'est quoi ton rapport, toi, à The OC?
Bah, en fait, moi, ce qui est marrant, c'est que la série a duré 4 saisons, donc a été diffusée pendant 4 ans. Et la première année de sa diffusion, j'étais en 3e. Donc, c'était ma dernière année du collège. Et je me souviens, le dernier épisode de la saison 1, quand Ryan repart à Chino, alors qu'il vient de passer un an à Newport Beach, j'avais été complètement dévastée parce que j'étais sur le point de rentrer au lycée et de plonger un peu dans l'inconnu. Et j'allais dans un lycée différent de toutes mes autres copines. Donc, j'allais me retrouver toute seule. Et j'ai vraiment eu une identification très forte à Ryan qui retournait à Chino et qui s'éloignait dans la voiture au coucher de soleil avec Alléluia de Jeff Buckley en fond. Je me disais, mais c'est totalement moi en allant au lycée. Et après, du coup, pour les 3 saisons suivantes, bah, ça a coïncidé avec mes 3 années de lycée, quoi. Et donc, j'ai aussi le souvenir de mes révisions du bac pendant le dernier épisode. Enfin, en tout cas, quand j'ai regardé le dernier épisode de Newport Beach, j'étais allongée par terre avec mes fiches de révision du bac. Donc, c'est vraiment... tu peux pas trouver plus... tu peux pas trouver mieux cadré comme série qui a complètement accompagné mon adolescence et mon passage à l'âge adulte. Donc, c'était hyper important symboliquement pour moi. Mais après, j'avais pas revu la série depuis des années. J'ai fait quelques rewatch récemment et toi et moi, on avait assisté à un marathon. D'un ancien épisode quand on était à New York et on s'était pas mal marré parce que bon, il y a des trucs qui ont très mal vieilli. Mais du coup, je savais pas forcément à quoi m'attendre en revoyant le pilote, surtout qu'on l'a revu ensemble toutes les deux. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'avais des attentes particulières avant de revoir le pilote?
Je pense que j'avais un assez bon souvenir de la première saison, donc j'avais juste envie de m'y replonger et je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui aient mal vieilli. Et puis je me souviens en plus que toi, tu l'avais revu il y a quelques mois quand même. Et tu m'avais dit que le jeu des acteurs était vraiment très mauvais. Enfin, moi, je me souviens que, par exemple, Rachel Bilson, que j'ai regardé après dans Heart of Dixie, qui est une série assez pourrie, je la recommande pas, mais que j'ai regardé pendant plusieurs saisons, est vraiment nulle. Enfin, c'est pas une bonne actrice, quoi. Et du coup, enfin, c'est pas une bonne actrice dans The OC non plus. Et enfin, c'est vrai que le cast, en règle générale, est pas forcément exceptionnel.
C'est clair. Après, on s'est rendu compte assez vite, et c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion quand je l'ai revue il y a quelques mois. C'est un très bon pilote. Malgré les jeux d'acteurs pourris et les problèmes de mode, on va dire.
Ça fait partie du charme.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, surtout qu'on en parle beaucoup dans le podcast, on a de plus en plus de mal avec des pilotes à l'heure actuelle qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que toute la série, toute la saison a déjà été achetée par la chaîne. Donc le pilote ne remplit plus ce rôle de coup d'essai pour vraiment montrer ce que la série vaut. Alors que là, c'était vraiment un pilote à l'ancienne qui établit tous les enjeux et qui nous capte complètement. C'est-à-dire que je me souviens quand on l'a regardé, toi et moi, il y a quelques jours, après, t'as dit, bon, bah, je vais rentrer chez moi et puis je vais regarder tout le reste de la saison parce
J'en suis à l'épisode 18 en 3 jours. Voilà.
Une fois que t'as commencé, tu veux plus t'arrêter. Et ça, enfin, c'est la définition du bon pilote. C'est tout ce qu'on attend d'un bon pilote. C'est pas forcément des performances oscarisables ou une réalisation hyper léchée. C'est juste rentrer dans un univers qui nous happe tout de suite.
Oui, puis ce qui est assez remarquable, en l'occurrence, c'est que toutes les intrigues majeures de la première saison sont établies dans le pilote. C'est-à-dire qu'on a la relation entre Marissa et Ryan. On a la relation entre Summer et Seth. On a la relation entre Jimmy et Kirsten aussi. Enfin, relation ou non-relation, mais au moins...
Les tensions dans son mariage avec Sandy. Ouais.
Et on a l'intrigue autour des démêlés de la justice de Jimmy qui commence à ce moment-là et qui vont se développer dans les épisodes suivants. Et on a aussi le sentiment d'outsider de Ryan et la relation entre Marissa et sa bouteille de vodka.
Voilà, c'est ça.
Tout ça est établi en un épisode qui, en plus, est très divertissant, marrant, bien écrit, honnêtement. Enfin bon, il y a plein de répliques et on va y venir. Très, très cliché. Littéralement, la deuxième réplique quand même de l'épisode, c'est le frère de Ryan qui dit à Ryan « Quit being a little bitch, get in », qui est quand même le truc le plus cliché de toute l'histoire.
Ouais. Donc, mais c'est aussi pas vraiment servi par le jeu des acteurs parce que tous les acteurs jeunes sont assez mauvais.
Oui.
Alors que tu te dis, avec d'autres acteurs, ça aurait peut-être mieux marché, quoi.
Oui, mais et ceci dit, en plus, c'est quand même drôle, quoi. Enfin, il y a beaucoup de moments, surtout grâce à Seth, il y a beaucoup de moments très drôles. Et puis, il y a Sandy Cohen, Peter Gallagher, qui à lui seul enfin relève le niveau de jeu de tout le monde et qui est le mensch de l'année, donc enfin il est assez incroyable.
Ouais, c'est clair. Par contre, il y a des éléments qui ont quand même très mal vieilli. Mm-hmm. Comme je disais, il y a la mode de l'époque, c'est assez divertissant. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je voulais vraiment m'habiller comme Marissa et Anna. Enfin, j'adorais leur tenue. Mais alors, voir ça en 2020, c'est vraiment choquant. Hein. Enfin, faut vraiment mettre de la crème solaire sur les yeux parce que ça brûle, quoi.
Les jeans taille basse.
Ah ouais.
Mais j'ai jamais vu des jeans. Enfin, je savais même pas que c'était possible, en fait, d'avoir des jeans aussi taille basse. Je me souvenais pas qu'on faisait ça à l'époque. Mais où est leur anatomie, en fait?
Nous, je crois qu'on faisait pas ça. Mais je crois que Marissa et genre Paris Hilton faisaient ça. Mais
oui,
je crois que les filles normales, voilà, faisait pas ça. Mais oui, voilà, c'était vraiment genre, tant qu'on voit pas le ticket de métro, c'est qu'il faut continuer à descendre, quoi.
C'est ça.
C'est assez choquant. Et puis vraiment, les t-shirts asymétriques, avec une seule manche.
Et avec un nœud au milieu, mais on comprend pas pourquoi. Enfin...
Et puis avec des couleurs vraiment fluo, quoi.
Ouais,
genre,
clair,
le t-shirt asymétrique vert fluo, c'est catastrophique. Mm. Et puis après, il y a quand même d'autres éléments qui ont mal vieilli. Et le plus important, je pense que c'est quand même l'absence totale de diversité. Bon, on sait que diversité, c'est un mot un peu galvaudé, mais en tout cas, c'est une série avec que des blancs, quoi.
Il y a deux personnes de couleur dans le premier épisode. Rosa, la bonne, des Cohen, qui ne prononce pas un seul mot. Hein. Même quand on présente Rosa à Ryan, elle ne dit même pas bonjour, elle sourit. Donc c'est un personnage silencieux. Et ensuite, il y a une jeune asiatique dont on ne connaîtra jamais le prénom, qui dit juste à Marissa, c'est à toi de passer sur le podium. Mais elle n'est pas mannequin, c'est celle qui fait l'organisation. Mmh. Donc c'est vraiment un monde extrêmement blanc. En même temps, ça dit quelque chose aussi de l'endroit où c'est. C'est-à-dire que Newport Beach et Z aussi, c'est un univers qui est connu pour être très blanc et très privilégié. Et je sais pas si ils avaient les talents d'écriture pour aborder des questions de diversité ou des questions de tension raciale dans une série comme ça.
Et puis on était en 2004 où on réfléchissait beaucoup moins à la représentativité d'un casting que aujourd'hui 15 ans plus tard, quoi.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est un peu, enfin, Ryan vient de Chino, qui est une ville qui a quand même à majorité latino. Et ils ont quand même choisi le mec blanc, blond, aux yeux bleus, qui en plus, dont on nous dit dès le début qu'il est brillant, mais qu'il a des mauvais résultats à l'école, mais qu'en fait, il est hyper brillant et tout ça, pour montrer vraiment qu'il mérite d'être sauvé, quoi.
C'est le bon pauvre, en fait.
Ah oui, c'est le bon pauvre, c'est ça. C'est que lui, il mérite d'être sauvé, par contre, les autres, peut-être un peu moins. Et il y a un truc un peu problématique autour de ça, quand même, quand on le revoit des années après, où on se dit, en plus, c'est très cliché, le milieu d'où il vient. Enfin, sa mère, c'est l'incarnation du white trash américain, quoi. Enfin, son gilet n'est jamais mis complètement sur ses épaules, et elle a toujours une bouteille de whisky à la main.
Ouais. Les cheveux complètement ébouriffés, et puis le soutif qui dépasse, enfin, ouais. Elle est complètement, et puis même Ryan, enfin, c'est un costume emblématique pour la série, mais il est tout le temps en Marcel Blanc. Mmh. Donc il y a vraiment une vision très caricaturale de ce qui constitue des habitants des quartiers pauvres, quoi.
Oui, voilà. mais il est blanc. À mon avis, ils ont même pas imaginé ou conçu l'idée de prendre un jeune latino qui serait beaucoup plus représentatif de l'endroit d'où Ryan vient en réalité, pour le, enfin l'intégrer dans une communauté comme celle de Zee aussi. Et je pense que ça aurait soulevé d'autant plus de questions et d'autant plus de problématiques qui auraient été hyper intéressantes en vrai, mais qu'ils avaient peut-être pas le talent de couvrir non plus, quoi.
Bah ouais, parce que l'enjeu le plus important qui est vraiment établi dans ce pilote, c'est la différence de classe. Et c'est quelque chose qui reviendra constamment dans la série. On a Ryan qui est pauvre, qui arrive dans une ville très très riche. Et en fait, il y a tout ça qui est un peu perverti parce que, ou du moins qui est subverti, parce que tous les riches de Newport Beach sont hyper malheureux. Et lui, il a un peu des meilleures valeurs, entre guillemets, que, donc bon, c'est assez cliché, quoi. Mais c'est assez fou de voir qu'ils avaient clairement un commentaire très réfléchi sur les divisions de classe dans la série, puisque c'est vraiment ça l'enjeu principal, mais qu'ils n'ont pas réfléchi plus loin, et notamment aux dynamiques raciales qu'il peut y avoir aux États-Unis, qui sont très importantes, et surtout que la ville de Chino est aussi connue pour ça. Et après, ils ont intégré le personnage de Teresa plus tard dans la saison, qui elle est latina, et donc sa famille aussi. Mais en vrai, c'est un des très rares personnages racisés de la série, quoi. Mmh. Et alors, on va rentrer dans les détails de l'épisode. En parlant de différence de classe, l'épisode commence avec donc Ryan et son frère, qui dit « Get in, bitch », qui sont en train de voler une voiture. Et alors déjà, il y a le contraste dans la réalisation, c'est-à-dire que c'est caméra à l'épaule, il y a un filtre un peu dégueu pour vraiment montrer que là, on est dans les quartiers pauvres et que c'est sale, quoi. Et après, par contre, une fois qu'ils seront à Newport Beach, ce sera une réalisation beaucoup plus posée, léchée.
Et lumineuse.
Voilà, et lumineuse et colorée. Et donc là, voilà, ça commence avec Ryan Atwood, qui est le protagoniste de la série, qui se fait arrêter après avoir volé une voiture. Et son avocat commis d'office, c'est Sandy Cohen, qui lui vient de Newport Beach. Et c'est ça qui va occasionner la rencontre entre les deux, et Sandy le prend un peu sous son aile et décide de le ramener chez lui à Newport, le temps de régler son cas, en fait.
Et quand Ryan arrive, c'est là, et qu'il attend, enfin, parce que Sandy rentre dans la maison pour dire à sa femme, à Kristen, j'ai ramené un délinquant à la maison. Ryan est en train d'attendre devant et rencontre Marissa pour la première fois, alors qu'elle est en train d'attendre son mec, et il fume une cigarette, et là, on a une scène cultissime qui est jouée. Enfin, on sent que Ben McKenzie qui joue Ryan, et c'est vraiment d'être le nouveau James Dean, et c'est incroyable.
On va écouter un extrait de cette scène, vous allez voir, c'est vraiment génial.
So, what are you doing here? Seriously?
Seriously? I stole a car. Crashed it.
Et alors là, il faut préciser que ouais, c'est le bad boy du titre. Et il faut préciser que là, il est un peu adossé contre le mur, en train de fumer une clope, avec un hoodie, enfin un sweat à capuche, pareil, qui lui tombe un peu sur l'épaule.
Puis il regarde en bas, mais en même temps, il la regarde à elle, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc où il a un petit regard un peu de rebelle, genre mystérieux.
Voilà, il y a un jeu de séduction qui commence tout de suite. Et c'est marrant parce que Marissa, c'est aussi un peu la rebelle, en fait, de Newport Beach. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il se crée une connexion tout de suite entre les deux, puisque elle, on le saura par la suite, elle a des problèmes d'addiction. Et c'est un peu la princesse torturée qui vit dans une famille richissime et une communauté richissime, mais qui est un peu à la marge aussi. Et donc, c'est pour ça que Ryan va forcément tomber amoureux d'elle. Et d'ailleurs, je me souviens dans les bonus DVD de la série, que j'ai regardé plusieurs fois, ils expliquaient le casting de Misha Barton qui joue Marissa Cooper, et ils disaient « on voulait quelqu'un qui juste t'assomme quand tu la vois pour la première fois, tellement elle est belle, quoi. » Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque, je trouvais que Summer était hyper mignonne parce que c'était la cool girl de la série. Mais c'est vrai que Misha Barton, en revoyant la série là aujourd'hui, elle est tellement magnétique, et je trouve qu'elle est d'une telle beauté, elle est vraiment époustouflante. Et donc, je trouve que là, ça se voit tout de suite dans cette première scène. Elle a un côté hyper charismatique, et on comprend pourquoi Ryan va tomber amoureux d'elle. Et lui aussi, il est très mignon, donc c'est juste le couple le plus beau de tous les temps, quoi.
Non, Seth et Summer sont le plus beau de tous les temps, excuse-moi.
Sorry.
Le seul problème, c'est que Misha Barton, c'est pas une très grande actrice, hein, comme Ben McKenzie et comme Rachel Bilson, mais heureusement, il y a vraiment des acteurs vétérans qui sont là pour remonter le niveau. On a parlé de Peter Gallagher, qui est dans le rôle de Sandy Cohen. Il y a aussi Kelly Rowan qui joue
Kirsten.
Et on a des vétérans de soap opéra américains, en règle générale, comme celui qui joue Jimmy, ou celle qui joue la mère de...
Julie Cooper.
Ouais, Julie Cooper. Mm.
Eux, ils arrivent vraiment à ancrer certaines des scènes qui, sinon, vireraient vraiment au soap adolescent vraiment pas crédible. En fait, il suffit d'avoir Peter Gallagher qui vient pour jouer le père qui réconcilie tout le monde et ça marche complètement, quoi, parce qu'il est très très bon dans toutes les scènes qu'il a.
C'est la même chose dans beaucoup beaucoup de séries adolescentes. C'est un peu une technique qu'ils ont pour, enfin, parce que je pense que c'est difficile quand même de trouver des très très bons acteurs adolescents. Quand on regarde Friday Night Lights, enfin, la fille de Coach Taylor ne sait pas jouer.
Ah hein. Oui, c'est horrible.
Mais par contre, Kyle Chandler et Connie Britton qui jouent ses parents sont des excellents acteurs qui remontent le niveau à chaque fois. Et là, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire que, enfin, quand on regarde des adolescents, on les regarde parce qu'ils sont beaux et parce qu'on veut les voir s'embrasser. Mais enfin, les parents amènent un autre niveau de jeu, quoi.
Ouais, c'est le point d'ancrage de la série. Mm. Bon, et alors, il y a quand même un moment que j'attendais avec impatience quand on a revu le pilote, qui est, je pense, un des moments les plus cultes de toute la série et même, honnêtement, de la pop culture. C'est une réplique iconique. On va l'écouter tout de suite.
Welcome to the OC, bitch. This is how it's done in Orange County.
C'est la phrase la plus culte de To The OC.
Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que donc The OC, qui est le titre original de Newport Beach, c'est donc les initiales de Orange County, qui est la région dans laquelle se passe la série. Et en fait, personne n'appelait Orange County The OC avant que la série sorte. C'était vraiment, c'est comme Soapy, South Pigalle, à Paris, pour les Parisiens. Ça n'existe pas. C'est... Mais en fait, c'est rentré dans le langage courant. Et donc maintenant, il y a des habitants de Newport Beach qui disent The OC, parce que bah, leur région est devenue vraiment célèbre mondialement grâce à la série. Mais avant, personne ne disait The OC. C'est quand même génial.
Ouais, et cette phrase, elle est prononcée par le personnage de Luke vers la fin de l'épisode. Et c'est comme ça, enfin, Luke, c'est le jock. Un jock, c'est vraiment l'athlète du lycée dans les clichés de comédie adolescente américaine. C'est vraiment toujours l'athlète qui est un peu concon et qui est un peu brut, parfois. Mmh. Et Luke, c'est le jock, donc, de la série. Et il est hyper jaloux de Ryan parce qu'il voit très bien que Marissa et Ryan ont un truc, enfin, commencent à avoir une petite connexion. Mmh. Et que lui est le mec de Marissa. Et du coup, c'est comme ça qu'il accueille, enfin après l'avoir tabassé, il lui dit « Welcome to the OC, bitch ouais. ».
Donc, oui, voilà, puisque Ryan, qui est un bad boy des quartiers pauvres, en fait, quand il arrive à Newport Beach, il ne peut pas s'empêcher de foutre la merde. C'est un peu ça qu'établit le pilote, c'est-à-dire que malgré ses bonnes intentions et ses très bonnes notes et son excellence académique, c'est un bad boy qui porte des marcelles. Et du coup, partout où il va y avoir des disputes, il va foutre la merde.
Ah, mais
et
c'est pas de sa faute.
Bien sûr que non, c'est pas de sa faute. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit dans le pilote selon la perception de notamment des adultes. C'est-à-dire oui. que Kirsten le voit comme une mauvaise influence sur sa famille et notamment sur son fils Seth, puisque Seth devient très vite ami avec Ryan, mais que dans le premier épisode, Ryan et Seth se retrouvent en pleine dispute. Et en plus, Seth est bourré, alors que c'est un peu le fils modèle à la base. Et donc, Ryan est vraiment vu comme ce fauteur de troubles. Et ça va être un peu un problème récurrent dans la série. Bon, malgré toutes ses bonnes intentions, il peut pas se défaire de son image de bad boy, quoi. Et il va vraiment mettre beaucoup de temps dans la série avant de devenir quelqu'un de respectable, entre guillemets. Et c'est ça qui va créer du conflit dans beaucoup de scénarios des épisodes. C'est vraiment son côté bad boy, quoi. Mm-hmm.
Et en parlant de Seth Cohen, c'est vraiment un personnage intéressant parce qu'il a eu un impact vraiment considérable sur la pop culture. Parce que c'est le geek de la série. C'est un énorme fan de comic books. Qui a des références très précises, c'est-à-dire que c'est pas un cliché du geek qui va juste parler de Star Trek et faire des blagues à la con. C'est quelqu'un de brillant hein, et qui est passionné vraiment par, en plus des niches dans les communautés de comic books et tout ça, et qui est un grand fan de pop culture, mais de pop culture très précise et très pointilleuse. Seth Cohen, c'est vraiment, en plus d'être tout ça, et à la base, quand on le rencontre, il est quand même moqué par ses pairs, il est rejeté par la communauté dans laquelle il est, enfin, en tout cas, la communauté des gens de son âge. Mais au fil de la série, quand même, bon, déjà, il est très mignon, hein. C'est Adam Brody qui le joue, donc il est vraiment très mignon. Et en plus, il va sortir avec la meuf la plus jolie du lycée, avec la meuf dont il était amoureux depuis des années. Il est très drôle. Et puis, enfin, il se laisse pas faire. C'est-à-dire que quand on lui parle mal, il va toujours avoir une répartie qui est très drôle et très fine et très intelligente. Et du coup, ça a vraiment changé la façon dont on percevait les geeks à la télé. C'était un des premiers personnages qui n'était pas une blague ambulante de geek, mais qui était un geek cool, en fait, et qui a rendu la culture des comic books et la culture d'aimer ce genre de choses beaucoup plus cool que ça ne l'était avant. C'est-à-dire que c'est sorti un peu d'une espèce de niche de geek et de nerd pour devenir un truc cool de mecs qui écoutent du rock et qui sont passionnés par les comic books, quoi.
Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui en 2020, la culture geek est devenue la culture dominante, c'est-à-dire que les films Marvel sont les films les plus populaires au cinéma, etc., etc. C'était pas vraiment le cas en 2004, et Seth Cohen a sans doute contribué à la popularisation de la culture geek. On va pas dire que c'est ce personnage qui a forcément influencé toutes les évolutions pop culturelles de la dernière décennie, mais clairement c'était une grosse avancée dans la représentation de cette culture-là, qui était vue comme marginale pendant très longtemps et qui maintenant est devenue dominante.
Demande à n'importe quel fan de The OC, une grande majorité, surtout des fans féminines et tout ça, ont eu un énorme crush sur Seth, quoi. Ouais. Alors que les personnages de geek habituellement à la télé, personne n'avait des crushs sur eux, quoi. Ça représentait pas un idéal masculin, alors que là, d'un coup, on a un idéal masculin qui, non seulement n'est pas sportif, mais s'en fout un peu, qui est névrosé et qui l'assume complètement.
Qui est pas très viril, c'est-à-dire que, bah, justement, dans ce premier épisode où il se retrouve dans une baston, on comprend que, enfin, il s'est jamais battu, c'est la première fois que ça lui arrive, et d'ailleurs, il aime pas trop ça. Enfin, il est très éloigné de tous les clichés du mec cool de la série adolescente qu'on avait l'habitude de voir. Bon, après, des mecs sensibles, il y en a eu à la télé, il y avait quand même Dawson, enfin, c'était pas non plus le premier, mais c'est vrai que il est tellement cool, contrairement à Dawson.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il a vraiment les réparties qui vont avec. Et puis, justement, lui et son amitié avec Ryan ont créé une espèce de combo parfait. Et après, les couples de Seth et Summer et Ryan et Marissa ont vraiment créé un peu la bulle idéale. Alors que, enfin, on se disait que dans la vraie vie, un mec comme Seth ne serait jamais ami avec un mec comme Ryan, etc. Mais c'est vraiment ça la beauté de la série. C'est que Seth Cohen est devenu un peu le symbole de tous les gens qui faisaient pas forcément partie des plus cools du lycée, mais qui, en fait, devient le mec le plus cool du lycée, sort avec la meuf la plus cool qui est hyper canon, traîne avec Ryan qui intrigue tout le monde. Enfin, voilà, ça devient un peu une des stars du lycée, quoi.
Oui, et ce qu'il faut dire au niveau du renversement des codes de genre, parce qu'il y a un peu ça aussi avec Seth, il y a aussi un peu ça avec Sandy, son père, qui, dès le premier épisode, en fait, il est avocat commis d'office, donc il gagne pas très bien sa vie. Et quand Ryan est surpris de voir qu'il a une BMW ou une Mercedes et qu'il habite dans les beaux quartiers, il lui dit « Mais je croyais qu'un avocat comme vous gagnait pas bien votre vie. » Et Sandy lui dit « Ah, mais je gagne pas bien ma vie. Ma femme, par contre, si. » On n'a pas l'habitude de voir ça, en fait, à cette époque, dans des séries comme ça. Enfin, c'est très discret, hein, puis c'est juste...
Oui, mais c'est vrai que ça revient plusieurs fois dans la série. C'est vraiment Kirsten qui est la gagne-pain de la famille et qui, honnêtement, porte la famille souvent parce que c'est la plus responsable des deux. Enfin, Sandy, c'est un peu un grand enfant, quoi, même si c'est un avocat et un père très compétent. Mais il adore aller surfer, alors qu'elle, elle va en voir, en fait, qu'elle a une charge mentale assez importante quand même. Elle tient vraiment la famille parfois à bout de bras. Et financièrement, clairement, c'est elle qui rapporte le plus d'argent. Et ça, c'est vrai que c'était pas forcément évident à l'époque de voir quelque chose comme ça à la télé, quoi. Il y a quand même autre chose que Seth Cohen a apporté à The OC et à la pop culture de manière générale, c'est son amour de la musique, puisque la bande-son de The OC est une des meilleures de toutes les séries. On pouvait acheter les CD à la Fnac, je me souviens, et moi je les avais tous achetés. Et c'était des CD qui étaient extrêmement populaires parce que juste tous les morceaux de la bande-son sont exceptionnels. C'était beaucoup de musique indé, de musique pop et de musique rock. Il y avait Ronnie, par exemple, qui est un groupe américain qui a été honnêtement popularisé par The OC. C'est-à-dire que personne, surtout en France, connaissait Ronnie avant de voir The OC. Ensuite, moi, je les ai vus 3 fois en concert quand je vivais à Austin, et j'étais au premier rang et j'étais à chouchou shaking comme Luke qui va à un concert de Ronnie dans la série. Donc il y avait un vrai, tu vois, un vrai travail méta que j'ai fait à ce moment-là. Il y a aussi évidemment Hide and Seek de Imogen Heap qui est devenue une chanson culte, voilà, et à tel point qu'elle a été parodiée, enfin, en tout cas que son utilisation dans Newport Beach a été parodiée par SNL, parce qu'elle a été utilisée plusieurs fois, ce qui est quand même rare pour une chanson de série, et donc à chaque fois à des moments très dramatiques. Et comme dans Newport Beach, des moments dramatiques, il y en a beaucoup, ça avait créé un sketch de SNL qui se moquait de ça.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin ce qui est marrant avec Hide and Seek, c'est que la chanson a été passée dans Normal People, la série qui est diffusée depuis récemment sur Stars Play en France, et qui est une série BBC Hulu à la base, et dont on a déjà parlé dans le podcast. Et en fait, l'utilisation de la chanson Hide and Seek, en plus Normal People, c'est une série sur l'adolescence, a fait beaucoup débat, aussi bien dans les gens qui ont regardé la série, qui se demandaient si c'était une bonne idée d'utiliser cette chanson, qui était si emblématique de The OC et qui était devenue, enfin carrément, qui a été mémifiée carrément à cause de son statut dans The OC. et les responsables de la musique dans la série ont fait une interview avec le magazine américain Vulture et ont dit qu'en fait eux-mêmes ne voulaient pas de cette chanson parce qu'ils trouvaient qu'elle représentait beaucoup trop Zia aussi et qu'elle était beaucoup trop rattachée à ça. Et c'est Lynnie Abrahamson, le réalisateur, qui a insisté pour l'utiliser quand même. Donc cette chanson,
on a envie vraiment de lui dire OK boomer quoi.
Mais c'est vrai que c'est, enfin du coup on voit vraiment l'impact de cette chanson en particulier, mais de la musique dans Zia aussi et le rôle que ça a eu quoi.
Ouais, et moi vraiment c'était l'époque où j'allais à beaucoup de concerts de rock et j'écoutais beaucoup de musique et je découvrais un peu la musique quoi. Enfin j'avais 15 ans et il y a beaucoup de groupes que j'ai vraiment appris à aimer grâce à Newport Beach et notamment bah Ronnie que j'ai eu plusieurs fois, mais même Nada Surf par exemple qui est un groupe qui tourne depuis les années 90. Mais et à l'époque ils avaient sorti Always Love qui était un peu leur tube qui les a réintroduits surtout aux adolescents, mais il y a If You Leave de Nada Surf qui est dans Newport Beach au moment où Anna quitte Newport Beach aussi, et c'était enfin un moment magnifique. Et en fait il y a tellement de moments de la série qui sont associés à une chanson pour moi, et il y a très peu de séries qui font ça, et Josh Schwartz est très très bon pour ça. Dans toutes ses autres séries il a toujours été très bon pour trouver des bandes son cultes parce que lui-même est fan de musique, et donc en fait il a inséré beaucoup de ses goûts dans les séries qu'il a faites. Et donc il y a notamment eu Gossip Girl, ou même plus récemment, j'ai oublié le nom de sa série, mais il a fait une série adolescente sur une meuf qui disparaît, c'est un truc de YA.
Looking for Alaska.
Ouais, voilà, Looking for Alaska. Et pareil, et en fait, dans Looking for Alaska, il a récupéré certains morceaux qu'il avait déjà utilisés dans Gossip Girl et Newport Beach, donc c'était un vrai trip nostalgique. Mais il est très très bon pour ça, et c'est un des plus gros impacts de la série sur la pop culture, c'est la musique.
D'ailleurs, puisque tu parles de Gossip Girl, faut dire quand même que Zia aussi a vraiment réinventé la série ado moderne, c'est-à-dire que sans Zia aussi, il n'y aurait pas eu de Gossip Girl, il n'y aurait pas eu par exemple de Riverdale.
Oui, ça a servi de modèle à plein d'autres séries adolescente, de Riverdale récemment, mais même Friday Night Lights il y a quelques années, dans lesquelles on retrouve beaucoup d'éléments de ce qu'il y avait dans Zia aussi, alors que c'était très novateur à l'époque. On a décidé de finir l'épisode avec un petit jeu, parce que c'est l'été et qu'en été, on fait des jeux. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer chacune de constituer l'équipe de nos rêves pour un confinement parfait. Désolée, on ne veut pas vous renvoyer à la période sombre du confinement qui a eu lieu au printemps. Mais voilà, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer chacune de choisir notre équipe parfaite avec les personnages de Newport Beach. Donc chacune à notre tour, on va choisir un personnage qu'on aimerait avoir dans notre équipe. Et donc, il va falloir être stratégique, puisque une fois que tu as choisi un personnage, évidemment, moi, je ne peux plus le choisir. Donc si on ne veut pas toutes les deux se retrouver avec Caleb dans notre équipe, il va falloir qu'on soit très malines. Marie, tu as décidé d'avoir le premier choix pour constituer ton équipe. Mmh. Et donc, on va essayer chacune d'avoir une équipe de 5 personnages. Et j'espère qu'on ne va pas s'entretuer.
Alors, je commence. Mon premier choix, c'est Sandy Cohen, qui pour moi est le meilleur personnage de Zia aussi, qui en plus est hyper gentil, il est sympa, il est, c'est juste un mec cool, quoi. T'as envie d'être confiné avec lui.
Bah ouais, je suis bien d'accord. C'était mon premier choix aussi. Ah donc, Bah écoute, du coup, mon premier choix, ce sera Seth Cohen.
Ah non.
J'avais prévu cette éventualité.
C'était mon deuxième choix.
Voilà, donc bah oui, parce que forcément, enfin, en même temps, tel père, tel fils, hein, ils sont tous les deux hyper fun, ils sont tous les deux très intelligents, ils ont plein de réparties, donc on sait qu'on va pouvoir se divertir pendant très longtemps avec eux dans notre équipe.
Je suis dégoûtée, je pensais pas que tu mettrais Seth Cohen aussi haut. Je pensais que tu aurais mis Julie Cooper.
Ouais. Bah, je savais très bien que si tu mettais Sandy en premier, t'allais mettre Seth en deuxième.
Oh, c'est horrible. Bon, du coup, mon deuxième choix, pour moi, ça va être Summer. Pas la Summer du pilote, pour le coup, mais la Summer qu'on va découvrir au fil des épisodes et des saisons après. La Summer qui est fan de The Golden Girls et avec qui je pourrais regarder donc des séries et qui est vraiment très sympa. Je la sépare un peu de Seth, c'est triste, mais c'est de ta faute. Hein.
Bon, alors, je ne vais pas modifier mon ordre en cours de route parce que ce serait tricher. Mais du coup, je note que Summer n'est plus disponible.
C'était ton troisième choix.
Je ne me prononcerai pas. Mais non, mon deuxième choix, ça va être Ryan. Étrange, oui. Je sais, mais déjà, il est très beau et c'est important en confinement, quand on est en chien, d'avoir quelqu'un de très beau à dispo, surtout qu'il est tout le temps à Marseille, donc personnellement. Alors, ce qu'on n'a pas précisé quand même, c'est où est-ce qu'on est confiné? Est-ce qu'on est confiné dans la pool house dans laquelle Ryan vit?
Non, moi, on est confiné dans la maison des Cohen.
Pour toi, on est confiné dans la maison entière des Cohen.
Ah bah oui,
Cohen.
Moi, je suis pas confinée dans une pool house, hein, ça va, je veux toute la maison. Hein.
Je sais pas, pour moi, j'imaginais forcément le confinement, tu vois, avec les...
Non, mais ça, c'est trop cruel. Attends, on va pas être à 6 dans un... C'est un studio qu'il a, au final. Non,
c'est vrai.
Va,
hein. Bon, c'est un grand studio, quand même. Mais,
oui, mais bon.
Bon, dans tous les cas, je maintiens mon choix de Ryan, parce que, déjà, il est très beau, et si on a accès à la piscine, voir Ryan torse nu pendant mon confinement, honnêtement, ça va me faire du bien, à l'esprit et à l'âme. Et aussi, parce que, honnêtement, Ryan est assez taciturne. nocturne. Et parfois, en confinement, on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui va nous laisser tranquille et qui va pas venir nous parler toutes les 5 minutes parce que sinon, moi, je pèterais un câble. Et je sais que Ryan, tu vois, il peut te laisser pendant 2 jours sans parler. Il y aura pas de problème. Donc, c'est très bien. Ton troisième choix, du coup, c'est qui?
Mon troisième choix, c'est Anna Stern, qui est, enfin, elle fait partie du triangle amoureux avec Seth et Summer dans la première saison. Elle est un peu relou parfois, mais en même temps, je sais qu'on aurait plein de trucs en commun parce que, enfin, elle adore la pop culture et qu'elle est très fun, elle est intelligente et comme moi. Et du coup, je pense que, enfin, on pourrait regarder des séries ensemble. Encore une fois, en fait, j'essaie juste de trouver une équipe avec qui regarder des séries, quoi. Donc, et puis je me dis, au final, elle s'entendait quand même bien avec Summer s'il n'y avait pas eu Seth en jeu. Et du coup, je me dis qu'on pourrait cuisiner ensemble, ce serait cool, quoi.
Ouais, non, elle se complète bien en plus. Ouais. Ouais. Du coup, je ne peux pas prendre Anna, donc ça fait chier. Mais du coup, la prochaine personne dans ma liste, je pense que ça va encore, les gens vont pas comprendre pourquoi, mais c'est Luke.
Moi, putain, ça y est, c'était mon prochain aussi.
Parce que Luke, il est fun, quoi. Alors certes, au début, il se bat un peu avec tout le monde et il dit « Welcome to the OC, bitch », mais il est juste hyper attachant, en fait. Et puis, il s'avère être quelqu'un d'assez loyal au fil de la série. Et puis juste, enfin, Luke à un concert de Ronnie, c'est tellement divertissant. Au premier rang, en train de hurler « chouchou shake », que je le veux dans mon équipe, quoi. Je veux qu'il soit là pour me divertir pendant le confinement. C'est le genre de mec, tu sais, ça va être un divertissement slapstick, tu vois. Il va se mettre à trébucher sur lui-même, il va à moitié se noyer dans la piscine. Enfin, juste, ça va être très drôle à regarder, quoi.
Je suis dégoûtée parce que quand même, t'as les 3 beaux gosses de la série. Enfin, moi, il me reste qui? Enfin, j'ai pris Sandy, je sais, mais il est un peu vieux quand même.
Chacun ses priorités. Toi, tu veux regarder des séries. Moi, je veux pécho pendant le confinement.
Non, mais j'avais mis Seth en deuxième et après, j'avais mis Ryan et Luke aussi, hein, mais tu me les as pris. C'est pas de ma faute.
Bah, moi, j'avais mis Anna et Summer, hein. Ouais, c'est... Bah, ouais, chacun d'accord. Son... chacun sa merde.
Bon, du coup, il m'en reste 2, c'est ça? Alors, la prochaine, sur ma liste, c'est Julie Cooper.
Putain, mais moi aussi, c'était la prochaine sur ma liste.
Je veux juste du drama, quoi. Enfin, elle est fun et puis elle est... Et tu sais qu'avec elle, tu peux gossip un peu. Enfin, après, je sais pas quelle sera la dynamique avec Summer, Anna et Julie, mais bon, ouais, on pourra...
C'est clair.
Ça
et
pourrait
alors,
être fun.
Il y a quand même un truc qui est très important pour Julie Cooper, c'est qu'elle a une collection de pyjamas en velours.
Juicy Couture.
Voilà, Juicy Couture, qui sont vraiment parfaits pour le confinement. Donc, en fait, j'aimerais avoir sa garde-robe pour le confinement. Ce serait hyper cool. Ok, bon, bah, du coup, tu m'as pris Julie. Donc, moi, la prochaine sur la liste, c'est Caitlin, la petite sœur de Marissa. Vous noterez que Marissa n'est sur la liste de personne, parce que personne ne veut Marissa pendant le confinement. Mais Caitlin, alors, je pencherai plutôt pour la Caitlin jouée par Shailene Woodley, parce qu'elle a été jouée quand même par 2 actrices dans la série. Et donc, la version plus jeune était jouée par Shailene Woodley, et elle était plus sympa, parce que c'était la petite sœur, quoi. Elle était marrante, elle était mignonne. Après, elle devient un peu hors de contrôle quand elle est jouée par Willa Holland en tant qu'adulte. Donc, je prendrai la petite Caitlin.
Bon, mais mon dernier choix, et franchement, je sais même pas qui c'est dans la série parce que j'ai pas regardé jusque-là, mais quand j'ai vu la liste de distribution, j'ai vu qu'il était dedans. Et comme tu m'as pris tous les beaux gosses, j'ai plus le choix. C'est Shea, qui est joué par Chris Pratt.
Ah oui, tu sais pas ce que tu sais pas ce que t'as fait comme choix là.
Pourquoi? Parce qu'il est insupportable.
Ah mais il est horrible. En fait, il est gentil, mais c'est un activiste en fait. Enfin, c'est un militant écolo vegan, hyper intense. Ouais, mais tu vois, les militants écolo vegan vus par un scénariste de 2007, tu vois. Il est assez chiant, mais bon, tant pis.
Ouais, surtout en confinement, ce serait chiant. Parce
ouais, voilà. Il te ferait des discours tous les jours. Il voudrait que tu regardes des documentaires vegan avec lui.
Mais on l'enfermera dans une aile de la maison. Et puis, on viendra le voir juste pour le plaisir, quoi.
C'est clair. Après, c'est vrai qu'il est très beau. Donc,
voilà.
Bah, écoute, du coup, mon dernier choix, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de prendre le stock d'alcool de Marissa Cooper. Parce que s'il y a bien un truc dont on a besoin en confinement, c'est de se divertir avec de la bouffe et des boissons alcoolisées. Hein.
Ouais.
Et Marissa, ben franchement, il y a pas mieux. Elle cache des bouteilles dans toute la maison. Donc franchement, c'est l'allié que je veux dans mon confinement. Et par contre, Marissa Cooper, on est d'accord?
Non.
Pire choix de confinement, quoi. Personne ne veut. Trop de drama.
Mm.
Bon, bah écoute, on s'en est pas trop mal sortis, hein, au final. Ça a été dur, mais... Je pense qu'on aurait chacune une bonne équipe au final.
Oui.
Mais le plus triste, c'est qu'on serait pas dans la même équipe, toi
c'est
et moi.
C'est vrai, c'est triste.
C'était PIC TV. Merci Marie.
Merci Anaïs.
Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant ce hors-série. On se retrouve à la rentrée. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préférée. À plus.